Ce matin, de louange, et ça nous met dans la présence de Dieu, puis ça nous humilie de voir combien Dieu est grand, combien on a besoin de lui, combien on est dépendant de lui. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Père, nous te sommes reconnaissants de tant de bonté, de pardon, de miséricorde dans notre vie. Nous nous inclinons devant toi, afin que tu sois glorifié, que tu sois vu. Que, Seigneur, ton nom soit exalté. Oui, nous voulons te ressembler. Et merci de ce que toi-même, tu as placé en nous ce désir, par ton esprit, de ressembler à Jésus, notre modèle parfait. Alors, Père, si nous trébuchons, merci de nous relever. Si nous ne sommes pas à la hauteur, merci, Seigneur, de nous élever. Merci de nous relever. Merci de nous fortifier. Père, je te prie ce matin, s'il y avait parmi nous quelqu'un en particulier qui a un fardeau, une difficulté, que tu puisses l'aider et regarder à toi. Conduis toi-même, Seigneur, cette prédication, glorifie ton nom, accompagne ta parole puissamment dans nos vies afin qu'elle nous transforme, parce qu'elle nous révèle ta personne et donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi, pour te contempler, ô Jésus, t'adorer et aussi se soumettre à cette parole divine, afin, Seigneur, d'être obéissant comme des enfants de paix, des enfants de Dieu régénéré qui te glorifie. Merci encore une fois, Seigneur, de ta présence dans nos vies. Quel privilège, quelle grâce de te connaître. À toi seule la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Vivre séparé du péché ». Je vous invite à tourner en Éphésiens et on regardera plusieurs passages de la Bible ensemble ce matin. Mais en Éphésiens, chapitre 5 et au verset 3, notre frère nous a déjà lu les versets 1 et 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour ». À l'exemple de Christ qui nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Et ce matin, nous allons regarder des versets 3 au verset 7. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ici, l'apôtre Paul nous donne un avertissement, évidemment, de marcher dans l'amour, qui est le contraire de vivre dans le péché. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut nous parler et nous poser cette question, est-ce que vraiment ma vie est séparée du péché? Est-ce que je comprends ce qu'est le péché et est-ce que je m'en éloigne? Est-ce que je regarde à Jésus pour me séparer du péché? On a déjà vu ensemble, on est en train de regarder l'Épître aux Éphésiens. On a déjà regardé ensemble les quatre premiers chapitres, et on est au début du chapitre 5, mais particulièrement l'apôtre Paul, après les trois premiers chapitres où il nous parle de ce que nous avons en Christ, eh bien de façon pratique, maintenant il nous dit ce que nous devrions être, connaissant Jésus-Christ. Et à partir du chapitre 4, donc il nous donne des principes de vie chrétienne tout à fait pratiques, mesurables, pour voir si vraiment d'abord on est dans le Seigneur. Et puis si on marche dans le Seigneur, le mot « marcher » est une des expressions clés, n'est-ce pas, de l'exhortation paulinienne dans le Nouveau Testament. Donc le titre de ce message ce matin, c'est « Vivre séparé du péché ». Ce n'est pas tellement populaire de parler d'une vie séparée du péché. Les gens ont plutôt envie de partager leur péché que de dire « voilà, on va s'éloigner du péché ». On a déjà regardé ensemble pour ne pas perdre la vue de là où nous sommes dans l'Épître aux Éphésiens, on a déjà vu ensemble, à partir du chapitre 4, que Paul nous exhorte à une conduite chrétienne dans notre vie personnelle, dans la société et dans la famille. Et là, on se trouve à partir du chapitre 5, la marche en société. La marche du croyant, c'est tout d'abord répudier la vie ancienne. C'est marcher en nouveauté de vie. À partir du verset 17, on a vu cela. Et puis, c'est vivre selon les principes de la vie nouvelle. C'est changer de conduite. Quelque part, quand le Seigneur vient habiter dans le cœur d'une personne, eh bien, sa conduite change. Et si sa conduite ne change pas, on peut se poser des questions s'il a vraiment expérimenté la vie de Christ. Alors, Paul nous exhorte et il nous dit que le croyant devrait marcher de façon digne. À partir du chapitre 4, versets 1 à 3, il est question d'une marche digne. On ne peut pas revenir dans tous les détails, mais c'est tellement riche et précieux, d'une façon digne. Est-ce que ma vie reflète Dieu? Est-ce que ma vie est digne devant Dieu et devant les hommes? D'ailleurs, cette marche digne amène, à partir de versets 4 à 6, avec la connaissance de qui est Dieu, à une marche dans l'unité, et à partir de verset 7 jusqu'au verset 16, une marche dans l'Église qui grandit. Des chrétiens qui marchent dignement portent du fruit et vivent dans l'unité du Saint-Esprit et font grandir l'Église. Alors, une question que Dieu nous pose aussi ce matin, enfin, c'est déjà que l'introduction, est-ce que ma marche facilite la croissance du corps de Christ? Alors, on devra répondre un jour devant Dieu à cela. Ensuite, est-ce que ma vie est différente de celle des païens? Et on a vu que le croyant est appelé à marcher en nouveauté de vie, à revêtir Christ et donc avoir une nouvelle conduite. Et là, on est en train de regarder ce qui est la marche dans l'amour. On verra un peu plus tard, à partir du verset 8, en fait, c'est à partir du verset 8, la marche dans la lumière, et un peu plus loin dans le chapitre, la marche dans la sagesse. Alors, on a de quoi examiner notre marche et veiller à regarder la façon avec laquelle nous vivons la vie chrétienne devant Dieu et sa parole. Alors, devenir imitateur de Dieu et marcher dans l'amour, notre frère nous a rappelé un petit peu les versets, mais qu'est-ce que ça veut dire d'imiter? Ben, ça veut dire de calquer sa vie ou ce qu'on veut faire sur quelqu'un. Ah bien, Dieu, notre modèle, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, et Dieu nous appelle à imiter Dieu, et surtout à l'imiter dans l'amour. Hein, la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est possible seulement par la vie de l'Esprit qui nous habite. Et comme des enfants bien-aimés, eh bien, il est normal que des enfants essayent de ressembler à leurs parents. Si vous avez Dieu comme père, alors vous allez essayer de lui ressembler. Et puis la Bible dit qu'il faut marcher dans la charité. Comment est-ce qu'on peut marcher dans l'amour, dans la charité? C'est parce qu'on a connu le pardon de Dieu. Et l'apôtre Paul, au verset 32, nous dit ceci, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Christ vous a pardonné, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Une façon d'imiter Dieu, c'est de pardonner aux autres. Nous avons été pardonnés d'une façon totalement imméritée. Le plus grand des pécheurs, c'est Paul qui disait qu'il était le plus grand des pécheurs, mais chacun de nous, devant Dieu, lorsque nous lisons les Écritures, on a envie de dire, non Paul, c'est pas toi, c'est moi le plus grand des pécheurs. Et donc, lorsqu'on est pardonné de façon imméritée, par la grâce de Jésus-Christ, Dieu nous appelle à pardonner, et à vivre le pardon, et à exprimer ce pardon. En fait, notre amour de Dieu, l'étendue de notre amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu en nous devrait être reflétée par notre capacité de pardonner. L'étendue de notre pardon est peut-être, n'est-ce pas, le signe, la jauge de notre vrai amour pour Dieu. C'est pas facile de pardonner, non? C'est même impossible, à moins qu'on regarde à Dieu et à la croix. Alors le modèle, c'est Christ. Le modèle de la vie chrétienne, c'est personne d'autre que Jésus. On n'est jamais déçu de suivre Jésus. Et puis, il nous a aimés d'un amour inconditionnel, constant, d'un amour fait d'action et de service d'humilité. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. C'était volontairement qu'il s'est livré à Dieu. Est-ce que notre service est volontaire envers Dieu ? Comme un sacrifice, une offrande, un sacrifice de bonne odeur, on se consacre à Dieu, on s'offre à Dieu, et Dieu nous utilise à sa gloire. Alors ici, l'apôtre Paul commence donc à partir du verset 1 et 2 au chapitre 5, de mettre en pratique ce que devrait être connaître le pardon et l'amour de Dieu dans nos vies. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Au verset 1 à 2, nous avons déjà vu la dernière fois que Paul nous dit, voilà, les bonnes vertus, c'est notamment de pratiquer l'amour. Mais vous savez, il y a différentes façons d'aimer. On peut aimer selon Dieu ou on peut aimer selon sa chair. Et s'il y en a bien un, n'est-ce pas, qui tente l'homme à soi-disant exprimer son amour, c'est Satan, mais dans sa chair, dans la chair de l'homme. Et donc Satan, en quelque sorte, donne une contrefaçon de ce qu'est le vrai amour. Nous sommes, et Paul ici exprime cela de façon opposée, le contraire de l'amour de Dieu, pour nous faire comprendre ce que devrait être l'amour de Dieu. Et nous avons déjà lu ensemble, tout à l'heure en introduction, n'est-ce pas, que Paul nous exhorte que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. La sainteté n'est pas une option. Vous serez saints car je suis saint. Et même le langage, les paroles que l'on exprime, n'est-ce pas, devrait refléter la sainteté de Dieu. Un chrétien devrait veiller sur sa bouche à ne pas avoir des gros mots, des blasphèmes, des paroles impures ou des blagues, n'est-ce pas, plus ou moins sur le bord de la ligne. Quelque part, le chrétien devrait vivre autant dans ses pensées que dans ses paroles la sainteté de Dieu. D'ailleurs, Paul disait au verset 29 « Qu'il ne vous sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. » Donc, par les paroles, nous pouvons nous édifier. Qu'est-ce que l'amour dans le monde, par contraste avec l'amour de Dieu ? L'amour dans le monde, d'abord l'amour de Dieu, excusez, c'est un amour désintéressé, j'en ai parlé, l'amour qui pardonne, tandis que l'amour dans le monde, c'est souvent un amour qui convoite, qui recherche sa propre satisfaction, moi d'abord. Je veux assouvir mes passions, moi d'abord. Et c'est pas étonnant qu'on voit une multitude de films, enfin, on ne peut peut-être pas les voir, hein, ou des articles, tout ça, où c'est la promotion du sexe, de l'adultère, du péché en fait. Dieu appelle le péché péché, et nous devons voir les choses comme Dieu le voit. En fait, l'amour dans le monde, c'est... Qu'est-ce que tu peux me donner ? Je reçois, je ne donne pas, parce que la Bible dit que le véritable amour, c'est de donner. Et la Bible dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? Alors, l'amour du monde, c'est un amour qui prétend aimer. Et Paul ici nous exhorte à veiller à ce que notre amour soit vraiment dans le sens de Dieu. Ce que passionne l'homme et le monde, c'est un certain amour, peut-être romantisme, qu'on voit dans les chansons, dans les romans, dans les films, les feuilletons, mais qui en fait ne présente pas le véritable amour de Dieu et qui parfois plutôt favorise les fantasmes et le péché de l'homme. J'ai beaucoup aimé un jour entendre, peut-être je vous l'ai déjà dit, mais la petite expression... anglaise, joy, pour avoir la joie, alors c'est en anglais, mais vous allez comprendre, il faut d'abord Jésus en premier, hein, joy, J-O-Y, over les autres en second, yourself en troisième. La véritable joie du croyant, c'est de mettre Jésus en premier. C'est pas d'essayer de se satisfaire, c'est laisser Dieu le satisfaire. D'être dans le contentement de sa présence, car un jour dans ta présence, vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Alors nous allons regarder ce matin des choses difficiles. Et nous allons dire des choses difficiles. Mais l'apôtre Paul le parle, en parle de façon extrêmement claire. Comment se fait-il que l'apôtre Paul dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient mentionnées ? Alors, à l'exemple de Christ, je passe, excusez, j'ai oublié un petit peu mon PowerPoint. Et on va regarder une mise en garde contre le péché, qui est la contrefaçon de l'amour. On va regarder ça, versets 3 et 4. Tout d'abord, que la débauche. Mais qu'est-ce que c'est que la débauche? En fait, la débauche, le mot grec, c'est porneia, n'est-ce pas, qui a donné le mot pornographie en français, ce qui est porno. Ça vient du porneia, le grec, mais ça signifie toutes sortes de péchés sexuels. En fait, ce sont des péchés qui sont contre Dieu et contre l'amour selon Dieu. En fait, péché, c'est manquer d'amour. Péché de façon porneia, c'est manquer d'amour. Je me souviens d'un jeune homme avec qui j'avais fait l'école biblique, qui, en sortant de l'église, en allant à l'institut biblique, a croisé une prostituée qui l'a sollicitée. Alors, il a été courageux, il ne s'est pas démonté, il a dit, mais vous savez, tout l'amour que je pourrais vous donner n'est rien par rapport à l'amour que Dieu pourrait vous donner. Il n'est pas resté trop longtemps à discuter avec ce genre de personne, mais il a au moins témoigné. Parce qu'il y a un autre amour que l'amour porno. En fait, c'est une perte de contrôle de soi dans le domaine sexuel. Et ça amène évidemment à la débauche, à l'impureté. En fait, le mot porneia, j'ai fait une recherche à partir du grec, c'est l'impudicité, l'infidélité, la prostitution. J'ai regardé ce matin, j'ose tout juste vous en parler tellement ça m'a bouleversé. 55% d'hommes, dans les statistiques officielles en France, trompent leurs femmes. 45% de femmes trompent leur mari. Et 7% de ces gens qui vivent dans l'adultère font l'adultère avec une personne du même sexe qu'eux. Mais c'est bouleversant, cela. On est dans les temps de Sodome et de Gomorre. En fait, le mot pornia signifie relation sexuelle illicite. Donc, il faut dire ce qui est vraiment le mot débauche. C'est l'adultère, la fornication, l'homosexualité, les mœurs d'une lesbienne, relation avec des animaux. C'est la relation sexuelle avec un proche parent, qu'on appelle l'inceste. C'est la relation sexuelle avec un ou une divorcée. Tout ça, c'est dans les textes de la Bible. Et en métaphore, c'est le culte des idoles, c'est la souillure de l'idolâtrie provenant de la consommation de sacrifices notamment offerts aux idoles. La débauche physique est liée à un dérèglement spirituel profond. Je vous lis ce qu'un commentateur a dit, M. MacDonald, au sujet du mot « la débauche ». Chaque fois que ce mot se trouve dans un verset qui mentionne aussi l'adultère, la débauche, la fornication, ça vise les relations illicites entre personnes non mariées. Alors c'est sûr que toute relation sexuelle en dehors des liens du mariage est une débauche. Et il se réfère pour le moment à n'importe quelle forme d'immoralité sexuelle. D'ailleurs, le mot pornographie, du grec porné, signifie le porneia, c'est la forme débauche, enfin dans le grec, tandis que le mot porné, c'est carrément un prostitué. Et ça a une racine dans le sens de la fornication. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Regardez avec moi par rapport à ce mot débauche, 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Est-ce possible dans une église un cas d'inceste? Eh bien, regardez, Paul en parle au sujet de l'église de Corinthe. On entend dire, et avec tristesse évidemment, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, c'est le même mot, porneia, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Alors c'est vrai que malheureusement ça a changé aujourd'hui encore. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Paul ici ne laisse pas passer le péché. Il appelle péché, péché, et il semble que dans la communauté de Corinthe, il y avait un compromis, un laisser-aller, une acceptation d'une telle situation. Et quand l'Église commence à baisser les bras face au péché, alors le diable vient vite, n'est-ce pas, pour détruire. Mais l'Église doit discipliner le pécheur pour discipliner le péché et appeler le péché péché. Un autre texte se trouve en 1 Corinthiens chapitre 6 et versets 13 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6 et versets 13 à 20. Toujours sur le terme de porneia, la débauche. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, porneia. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. La relation sexuelle a pour but d'unir deux personnes. Une seule chair, ce n'est pas simplement deux corps, c'est aussi les âmes qui se lient. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche, porneia, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors on a regardé ensemble ce que signifie le mot porneia et on voudrait maintenant regarder ce que signifie le mot impureté dans le grec, atartarsia, qui est un mot en fait qui est souvent employé pour la décomposition du corps. Il y a l'idée de la honte. En fait, c'est lié, l'impureté, là, dans ce cas-là, à ce qui est sexuel, ce qui est honteux. J'ai regardé dans le grec, c'est l'idée, évidemment, de l'impureté physique, la malpropreté, c'est quelque chose qui est impur, quelqu'un qui est impur, qui est peut-être pas propre, tout simplement. Mais dans un sens moral, c'est l'impureté sexuelle, la luxure, la corruption, la dépravation. Écoutez ce que dit un commentateur. Il dit « Ce mot désigne aussi les actes immoraux, quoiqu'il puisse aussi viser les images impures, des livres obscènes et d'autres matières suggestives qui caractérisent une façon de vie indécente et qui nourrissent les feux de la passion. » La débauche vient du fait qu'il y a un accès par l'impureté quelque part et ça peut être de façon suggestive par toutes sortes de moyens. Et l'apôtre Paul dit ici ceci, ni aucune impureté, ni la cupidité. Mais qu'est-ce que vient faire la cupidité lorsqu'on parle de débauche et d'impureté? Quel est le lien entre la cupidité, la débauche et l'impureté? Eh bien, l'apôtre Paul nous dit au verset 19 qu'on a regardé ensemble à propos de la marche qui ne doit pas se conformer à la marche des païens. Ayant perdu tout sentiment, il parle d'un païen qui ne connaît pas Dieu, qui est séparé de la vie de Dieu. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. En fait, on a déjà établi ici que dans l'idée de commettre, c'est tirer profit. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire que l'impureté liée à la cupidité, c'est le commerce du sexe. C'est faire de l'argent avec un commerce sur le sexe. Alors on est en plein dedans aujourd'hui. Encore, ça existait du temps de l'apôtre Paul et ça existe encore en notre temps. Alors c'est en fait une avarice, c'est vivre pour soi, c'est satisfaire ses propres besoins et même la cupidité qui est l'amour de l'argent, eh bien c'est une idolâtrie, dit la Bible. On parle de certains péchés graves, ou comme on voit, débauche, impureté, mais la cupidité, l'avarice, c'est aussi un péché. Et certains, pour s'enrichir, n'est-ce pas, sont malhonnêtes et peuvent faire même du commerce par rapport au sexe, dans le contexte ici. En fait, c'est tout simplement ne pas aimer selon Dieu. Être cupide, être impur, être débauché, c'est ne pas aimer selon Dieu. Le péché sexuel est toujours, J'aimerais qu'on le souligne dans nos esprits ce matin. Le péché sexuel est toujours un manque d'amour. Envers même soi-même, j'ai envie de dire. Envers les autres, envers soi-même. C'est pour cela que ni la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne devraient pas même être nommées parmi les chrétiens, ainsi qu'il convient à des saints. Est-ce que mes paroles, mon langage, reflètent la sainteté de Dieu? Je pense que le diable voudrait faire flirter les croyants et même l'Église dans des chemins du monde. Et si nous ne veillons pas au petit écran, à la lecture de journaux, de quotidiens, ou de publicité, ou toute forme, n'est-ce pas, de suggestion, et même, malheureusement, de plus que de suggestion, n'est-ce pas, qui sont placées sous nos yeux, le chrétien pourrait glisser et ne plus appeler péché, péché. C'est presque normal aujourd'hui, alors on le dit entre nous, n'est-ce pas, parce que c'est dangereux de parler contre certains péchés. Mais aujourd'hui, on dit, il est né comme ça, ou finalement, c'est sa tendance. Non. La Bible dit que le péché, c'est péché, et l'homosexualité et le lesbianisme, c'est un dérèglement profond devant Dieu. Et c'est un rejet de Dieu, et c'est même une condamnation de Dieu, et c'est un châtiment de Dieu sur l'homme lorsqu'il s'éloigne de Dieu et préfère adorer la créature plutôt que le Créateur, nous dit l'Épître aux Romains. Alors, il est question aussi de paroles grossières. Ici, dans le grec, ce sont des termes généraux qui désignent toute parole qui est obscène, dégradante et honteuse. Et on peut faire un lien avec l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 8, qui dit « Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » C'est vrai que la bouche peut exprimer beaucoup de choses, mais dans la bouche du croyant, il devrait y avoir l'expression d'un cœur de paix, de pureté, de joie, un cœur qui se réjouit dans le Seigneur. Les propos insensés ici, c'est la seule fois qu'on le trouve dans le Nouveau Testament. Et puis finalement, le mot grec dérive d'un mot qui signifie « peu brillant ». Alors, j'ai lu ceci, je vous le lis. Ce sont des propos stupides qui ne conviennent qu'à quelqu'un qui est intellectuellement déficient, des obscénités de bas étage, le genre d'idiotie qui sort de la bouche d'un ivrogne ou d'un voyou et qui n'ont d'autre but que de communiquer une impression d'expérience des choses du monde. Alors, sans entrer et donner un exemple, j'ai à un moment donné pensé à un humoriste qui vit dans la vulgarité, eh bien, on ne devrait pas entendre cela, nous, en tant que croyants. On devrait avoir des paroles qui édifient. Donc, s'éloigner, ce n'est pas simplement ne pas pratiquer entre chrétiens le dimanche matin ou quand on se réunit, mais dans la semaine et jour après jour, c'est de s'éloigner le plus possible de cela. Parce que ça pourrait nous contaminer. Vous savez, une porte entrouverte qui n'est pas vraiment fermée, elle peut s'ouvrir de plus en plus. Un fil autour des poignets, c'est facile à s'en débarrasser. Vous mettez deux fils, vous pouvez jouer encore, vous allez vous libérer. Vous mettez 10 tours d'un fil tout simple, vous devenez esclave. Et le diable veut tenter les croyants par toutes sortes de suggestions à vivre dans la pensée du monde qui vit dans la débauche, l'impureté, la cupidité. Ce sont les moteurs de notre société. Il n'y a qu'à voir nos hommes politiques. Alors, on ne juge pas, parce qu'on est fait de la même passion, nous dit Jacques, n'est-ce pas, à propos d'Élie qui priait, de la même nature que nous, faible créature, mais nous avons le Christ, et donc nous pouvons résister à la tentation, et vaincre le mal, et vaincre le péché. C'est pour ça que ce qui devrait sortir de la bouche du croyant, ce sont plutôt des actions de grâce, Eucharistia dans le grec, une action de grâce, une reconnaissance. Moi, je suis fait comme ça, mais quand quelqu'un me dit merci, on a chanté merci, c'était magnifique tout à l'heure, hein, ça ne vous a pas réchauffé le cœur? Quand quelqu'un exprime une reconnaissance pour un service, le détail, si petit soit-il, un esprit de reconnaissance, moi, je trouve que c'est une vertu chrétienne qui parfois manque à nous les enfants de Dieu. On peut être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il est d'abord et ce qu'il fait. Et savoir dire merci, mais c'est une joie de le dire, et puis c'est une joie de le recevoir. C'est pas flatter les gens, n'est-ce pas, pour tirer profit. C'est juste être dans la vérité. Et au sujet de Dieu, on ne dit pas assez des actions de grâce devant les hommes, de ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que quand on se réunit, on loue Dieu de qui il est, puis de ce qu'il fait dans nos vies? La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses. Vous avez un toit. Vous avez la nourriture tous les jours, vous êtes en santé, mais vous avez la foi, vous avez le Seigneur, vous êtes en route pour le ciel. Est-ce que ce ne sont pas des sujets de louange et d'adoration envers Dieu? Passons plutôt notre temps à rendre grâce à Dieu, car c'est à votre cœur la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'action de grâce, un esprit de reconnaissance, c'est le remerciement. Et le mot qu'a donné l'Eucharistie, alors nous pratiquons la Sainte Cène, évidemment on ne croit pas à la présence réelle dans le pain et le vin de Jésus-Christ, mais c'est aussi une action de grâce envers Dieu. « T'es mort pour mes péchés, je te rends grâce. » C'est ça l'Eucharistie du croyant. « Je te rends grâce Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie éternelle. » Alors non seulement l'apôtre Paul met en garde, n'est-ce pas, contre le péché, la contrefaçon de l'amour, mais aussi il donne... explication du sort des pécheurs. Le péché entraîne un châtiment. C'est ce que dit la Bible ici, au verset donc 5, « Car c'est chez le bien, aucun débauché, ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » On ne doit pas vivre dans ces péchés-là, on ne doit pas fréquenter des gens qui vivent dans ce péché-là, et on doit voir que ceux qui vivent dans ce péché-là, de façon habituelle, ne font pas partie du royaume de Dieu. On doit prendre conscience de ce qui est la finalité de ce monde. Nous ne tremblons pas assez devant les châtiments éternels de Dieu et nous ne sommes pas assez conscients de l'enfer. Si nous croyons vraiment à l'enfer éternel, selon les Écritures, qui est le sort du pécheur, qui ne se repent pas, alors nous devrions trembler devant ceux qui s'expriment librement de toutes sortes de péchés. Et nous devrions les avertir comme des sentinelles, parce qu'un jour Dieu va nous redemander, n'est-ce pas, compte de la façon avec laquelle on aura réagi face au péché. On fait trop de compromis dans nos vies, on laisse trop glisser le péché comme une norme dans la société, et cela nous est imposé. Et nous pouvons résister. Le chrétien n'est pas un thermomètre qui subit la température, mais il est un thermostat qui donne la température. Et vous serez saint car je suis saint. En fait, ceux qui sont caractérisés, n'est-ce pas, par ces péchés de façon habituelle, montrent qu'ils n'appartiennent pas au royaume de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est impossible de pratiquer ces péchés-là et de les accepter de façon habituelle sans les abandonner, les confesser et faire partie du royaume de Dieu. Parce que ce ne sont pas les normes d'un croyant. Les normes d'un croyant, c'est d'appartenir à Christ. Et la Bible dit, en 1 Jean notamment, que tous les gens soulignent les caractéristiques de la vie du croyant. Et Tite nous dit ceci, je vous le lis, « Car par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. » Moi, ce que j'aime bien, c'est la grâce ici. On n'est pas sous une loi morale, n'est-ce pas, comme certaines religions qui sont devenues tellement légalistes, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, sous la force du caractère, mais il y en a beaucoup qui tombent. Nous, c'est par la grâce, source de salut. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Il y a vu dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Nous n'avons pas besoin d'essayer de nous réjouir dans le monde. Mais nous pouvons avoir la grâce de nous réjouir en Christ sans aller dans le monde pour essayer de nous satisfaire. Parce que la présence de Christ, si vous êtes en communion avec Jésus et vous le contemplez, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de plus grande chose Il n'y a pas de plus grande beauté dans le monde que d'être en communion avec Dieu par son Fils. Si la main de Dieu vous touche, son Fils vous parle, vous communique sa paix. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, c'est la joie, l'amour. Cultivons cela, parce que c'est la plus grande richesse qui existe dans ce monde. Et si vous deviez tout perdre, être dépouillé, être mis en prison, qu'est-ce qui vous resterait ? Christ, l'espérance de la gloire. C'est vraiment notre unique et seule valeur. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, que les injustes, ceux qui pratiquent cela, la débauche, l'impureté, la cupidité, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu parce qu'ils ne pratiquent pas la justice de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, pornia, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est ce que dit la parole. Et je pense à un verset aussi, en Galates, excusez, je vous le lis. « Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, donc dans le sens de les pratiquer régulièrement, n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Paul ici nous dit, voilà, vous, éloignez-vous du péché parce que le péché, en fait, amène à la perdition. Il y a un jugement sur le pécheur qui ne se repent pas de vivre dans la débauche, l'impureté, la cupidité. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si donc le péché entraîne un enfer, et bien sûr au ciel il n'y aura que des pécheurs pardonnés. Nous sommes tous des pécheurs, nous qui connaissons le Seigneur. Mais si le péché entraîne la condamnation éternelle, alors on doit veiller à s'en éloigner, sachant que notre vie sainte peut sanctifier d'autres. Est-ce que vraiment notre vie fait la différence chez les autres ? Est-ce que la sainteté de Dieu dans nos vies apporte un témoignage dans nos foyers, dans nos familles, chez nos voisins, là où on travaille ? Est-ce qu'il y a une différence parce que Christ habite en nous et Christ, c'est Dieu ? Et on peut se poser la question... Face à des situations, que ferait Jésus à ma place ? Que ferait Jésus à ma place ? Il y a un avertissement, après avoir parlé du châtiment, il y a un avertissement, enfin, que Paul, et on va terminer avec ça, que Paul nous laisse, ne pas se laisser séduire et ne pas prendre part au péché, c'est l'avertissement. Paul nous dit de marcher dans l'amour, mais il y a un danger. C'est que le monde a une façon de marcher dans l'amour qui n'est pas le vrai amour qui vient de Dieu, qui cherche à satisfaire son égoïsme, ses passions et ses péchés sexuels. Il y a un châtiment pour cela, et dont le croyant, il doit veiller. Il ne doit pas se laisser séduire. On dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. On doit veiller. On doit veiller, frères et sœurs, je vous le dis, avec beaucoup d'amour. Quelqu'un a dit, beaucoup de gens du monde adoptent une attitude de plus en plus désinvolte et tolérante en matière d'immoralité sexuelle. Et puis combien c'est vrai cela ? Ils disent que l'assouvissement des appétits physiques est nécessaire et profitable et que si on les refoule, il en résulte des personnes maniaques et inhibées. Selon eux, la morale dépend entièrement de la culture ambiante, de sorte que puisque les relations prémaritales extramarital et homosexuel, que la parole de Dieu condamne et désigne comme fornication, adultère et perversion, sont acceptés dans notre culture, elles devraient être légalisées. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors je vous le dis, ça me vient à l'esprit, mais je ne fais pas de politique en disant ça, d'accord ? On a vu un jour dans le journal, j'aime bien lire le journal, surtout quand je suis en vacances. Bon, bref, je ne vais pas raconter ma vie, mais. Et j'ai lu un jour Jospin qui disait, voilà, je suis un protestant athée. Alors, acceptez que je vous dise ça, n'est-ce pas ? Faites pas de politique en disant ça. J'ai dit, c'est grave de dire ça. Hein ? Puis une autre fois, à la télévision, Jospin s'est présenté. Alors, c'est lui, je dis lui, ça pourrait être quelqu'un de droite, parce que bon, il s'est présenté et puis il a dit, voilà, c'est bien pour notre société de légaliser l'homosexualité. Alors, oui, on va paxer les homosexuels. Et je me suis tourné vers ma femme et j'ai dit, cet homme-là, il va perdre les élections. Dieu va le juger. Je l'ai dit comme ça. Et Dieu l'a fait. On ne peut pas dire des choses en public et avoir une telle influence, n'est-ce pas, et favoriser le péché sans subir tôt ou tard le jugement de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. C'est malheureux que les gens qui nous dirigent n'aient pas des réunions de prière pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour gouverner et diriger le monde. Et ils ne favoriseraient pas le mariage des homosexuels et plus tard l'adoption d'enfants par les homosexuels. Parce que l'homosexualité est un péché, c'est porneia, entre autres. Une prostitution. Dieu est en train de juger ce monde, frères et sœurs. Alors nous ne pointons pas du doigt, n'est-ce pas? Qui sommes-nous pour accuser? Mais le sida, n'est-il pas un fléau dû au péché? Même s'il y a parfois malheureusement des gens qui ont contracté le sida malgré eux, sans avoir une relation sexuelle perverse ou autre, ou illégale, on va dire. Enfin, la fidélité dans le foyer préserve notamment du sida, c'est clair. Il y a des maladies vénériennes. Quand j'ai quitté le Québec, j'étais bouleversé d'apprendre des statistiques de ce qu'on appelait la polyvalente. C'était l'équivalent du collège, les enfants jusqu'à 16 ans, hein, un petit peu lycée. Et quelles étaient les statistiques? 40 à 60% des enfants avaient des relations sexuelles, déjà, entre 14 et 16 ans. Et 15% d'entre eux avaient des maladies sexuelles transmises. Dieu a un jugement sur la sexualité débridée en dehors des liens du mariage. Il n'est pas question... Alors évidemment, quelqu'un qui tombe dans tel ou tel... Oui, bah écoute, non, le péché, c'est le péché. Alors ce n'est pas jugé, hein. On peut détester, haïr le péché, mais aimer le pécheur. Et Dieu a sauvé combien... n'est-ce pas, de gens dans des péchés comme cela, et il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Hébreux 13, 4 dit ceci, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'adultère, qui est une norme tout à fait acceptée aujourd'hui dans la société, un jour Dieu va le juger. Regardez bien ce que dit, j'ai fait une recherche du mot grec impudique, voilà ce que c'est pornos, hein, porneia c'est la débauche, et pornos c'est l'impudique. Qu'est-ce que c'est l'impudique? Qui est-il? Un homme qui prostitue son corps et le loue à la convoitise d'un autre. C'est un prostitué, un homme qui se complaît dans la relation sexuelle illicite, un qui fornique. Un jour, Monsieur Louis Pelzer, ici, est venu nous présenter des enfants dans les pays de l'Est qui vivent de la prostitution. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais bouleversé. Ah bon, on a donné une offrande pour justement avoir à soutenir cette mission. Mais vous vous rendez compte, des enfants qui sont abandonnés, ils vivent dans l'égout. Et puis, à un très jeune âge, ils se prostituent, leur corps pour pouvoir vivre. Est-ce qu'on peut être indifférent à cela? La Bible dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous qui connaissons Dieu, nous avons la crainte de Dieu et nous ne voulons pas subir la colère de Dieu. La Bible dit ceci, c'est un avertissement terrible pour ce monde et ses péchés pratiqués. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu tient responsable les hommes qui ne le connaissent pas. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, obéir à l'évangile, c'est se séparer du péché. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Alors c'est un message qui est difficile, n'est-ce pas, quelque part. On va terminer en lisant Nombre 25. Je dois vous lire cela. Nombre 25. et versets 1 à 9. Est-ce que nous pouvons laisser le péché nous dominer? Est-ce que nous pouvons laisser le péché impuni dans nos vies ou le laisser dominer nos vies? Regardez ce que dit, et c'est un exemple du jugement de Dieu sur la débauche. Nombre, chapitre 25. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche. Hein? Dans le grec, ce serait porneia. Avec les filles de Moab, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Alors l'apostasie qui est l'abandon de l'adoration de Dieu pour aller vers d'autres dieux, idolâtres, liés, c'est souvent lié à la sexualité. Dans les temples païens, il y avait énormément, notamment à Éphèse, énormément de prostituées. Il faut comprendre cela. L'idolâtrie amène l'impureté et l'impudicité, un déraillement sexuel, la déviation. Et l'éloignement de Dieu amène à une déviation sexuelle. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Un jugement certainement exemplaire, mais nécessaire pour garder Israël. Moïse dit au juge d'Israël, vous savez que d'Israël devait naître Jésus-Christ, le Sauveur. Donc Israël a été, le diable a toujours essayé de contaminer Israël pour pas que le Fils de Dieu promis arrive. Et voici un homme des enfants. Alors Moïse dit au juge d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Alors évidemment, c'est le contexte de l'Ancien Testament, hein. Enfin, Ananias et Saphira, Dieu leur a enlevé la vie parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères, en toute, n'est-ce pas, liberté, une Madianite. Sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée, il ne faisait pas fi de son péché, des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinée, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivait l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Voilà un exemple typique, n'est-ce pas, de jugement de Dieu sur la débauche. Alors la Bible dit, et on termine vraiment avec ça, « N'ayez donc aucune part avec eux ». Ne suivez pas le monde dans sa perversité, ne partagez pas sa déchéance, partagez plutôt la justice de Christ, n'imitez pas le monde, mais soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et un commentateur ajoute, les croyants sont seulement avertis de n'avoir aucune part à un comportement si impie, si à donner déshonore le nom de Christ, détruit d'autres vies, ruine son propre témoignage, et entraîne un fleuve de rétribution. À Québec, il y a un jeune homme qui, malheureusement, est tombé dans le péché grave d'un commerce sur la sexualité. Et on a vu sa chute jusqu'à aller en prison, la cupidité. Alors, la question de ce matin... Dieu m'invite, en conclusion, à marcher d'une manière digne. On l'a déjà vu, à ne pas marcher comme les païens, à connaître Christ, à revêtir l'homme nouveau. Dieu m'invite à changer de conduite. Dieu m'invite, pour cela, à renoncer à la colère injuste, c'est dans le passage précédent, de passer du vol à la générosité, de passer des paroles mauvaises aux bonnes paroles, et puis de passer du mensonge à la vérité, de ne pas attrister le Saint-Esprit, et de passer des défauts naturels aux vertus surnaturelles, de l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, la méchanceté, et puis à passer à la bonté, compassion, pardon réciproque, à changer de conduite, renoncer à la colère injuste. Alors je pense que j'ai mis une double diapo, excusez. Et puis Dieu m'invite à marcher dans l'amour. C'est beau, non? Vous parlez de l'amour à quelqu'un, est-ce que les gens vont faire « alors, je veux entendre ». Non. Les gens sont sensibles à cela. À devenir un imitateur de Dieu, à marcher dans l'amour, et à l'exemple de Jésus-Christ, à vivre séparé du péché. Je vous laisse cette question. Est-ce que je vis séparé du monde et de ses péchés? La Bible dit « n'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour du monde ne vient point du Père ». Est-ce que nous allons laisser affaiblir notre foi, notre marche par le péché, ou allons-nous nous séparer virilement, courageusement du péché, afin de laisser la vie de Christ en nous? Prions, s'il vous plaît. Notre Père, merci de tout ce que tu nous as enseigné ce matin. Merci de nous aider à abandonner le péché, à y renoncer à cause de la grâce de Jésus-Christ. Je te prie, Père, que tu nous gardes chacun de nous le plus éloigné possible du péché par ta puissance qui habite en nous, et nous t'en donnons toute la gloire. Amen.